Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Le premier a voulu torpiller l'élection du deuxième, lequel l'a qualifié de tueur, mais Vladimir Poutine et Joe Biden vont passer tout l'après-midi ensemble à Genève, ville quadrillée par les forces de sécurité, Washington et Genève en direct dans un instant. Le complotiste Rémi Daillet, aux mains de la justice française, en route vers Nancy, où il va répondre de son implication de l'enlèvement de la petite Mia. À Bastia, la perpétuité requise contre l'assassin de Julie Dweeb. 3 semaines au lieu de 5 minimum entre 2 doses de vaccin ARN. Campagne accélérée à l'approche des vacances d'été. De plus en plus de Français quittent les métropoles pour des villes moyennes. Tendance de fond observée par les notaires. Thomas Pesquet dans le vide spatial en apesanteur pour une périlleuse mission de 6 heures cet après-midi. Et Paul Pogba, star de France-Allemagne, suivi par 15 millions de téléspectateurs. Invité d'Europe Midi, l'acteur Vincent Macaigne, héros de Médecins de Nuit, formidable thriller médical sur les écrans aujourd'hui.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une grande bâtisse posée sur un parc magnifique au bord du lac Léman, en plein cœur de Genève, la Villa Lagrange, qui sert de cadre à un tête-à-tête digne des grands sommets de la guerre froide. 4 à 5 heures de discussion prévues à partir de 13 heures entre Joe Biden et Vladimir Poutine, assistés de leur chef de diplomatie. Et pour ce rendez-vous, Genève, qui en a pourtant connu bien d'autres, est littéralement en état de siège, Elena Voloshine.
Oui, Patrick, tout à fait. La Villa Lagrange, ce lieu historique, vous le disiez, a dû être réaménagé pour l'occasion avec des pièces de maître déménagées, complètement entourées de fils barbelés. Actuellement, on attend Vladimir Poutine. Alors, les rues aussi sont bloquées, ce qui fait quand même râler certains, puisque les Genevois ont l'habitude des grands sommets internationaux, mais ils disent que de mémoire de Genevois, on n'avait pas vu ça, même pour la visite du pape en 2018. Et même les plus âgés parlent de la rencontre entre Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan en 1985, ils disent que même là, ce n'était pas aussi grandiose et sécuritaire.
Et grandiose et sécurisée, oui, c'est ça, Elena Voloshine en direct de Genève. Avant de vous retrouver, un détour par Washington avec Alexis Guilleux, puisque c'est Biden qui a demandé ce sommet, même si les attentes de la Maison-Blanche ne sont pas démesurées, Alexis.
Exactement, Joe Biden ne s'attend pas à une refonte totale des relations avec Moscou. Il souhaite des liens stables et prévisibles avec la Russie, mais pas question d'être complaisant ou d'afficher une quelconque proximité avec Vladimir Poutine. Il n'y aura d'ailleurs pas de conférence de presse commune après la rencontre. Depuis le début de son mandat, Joe Biden hausse le ton vis-à-vis de son homologue, allant même jusqu'à le qualifier de tueur. Pour autant, le président américain ne veut pas de conflit avec la Russie, mais il le répète, les États-Unis répondront si Moscou continue ses activités nuisibles. Les récentes cyberattaques lancées depuis le sol russe seront donc sur la table tout à l'heure, tout comme la question de l'ingérence russe dans les dernières élections américaines. Concernant les droits de l'homme, pierre angulaire de la diplomatie de Joe Biden, le président américain a pris soin ces derniers jours au G7 et à Bruxelles d'afficher l'unité entre les États-Unis et les démocraties mondiales contre les régimes autoritaires, symbole aussi de la volonté de la Maison-Blanche de tourner la page Donald Trump, qui lui n'avait jamais caché son admiration pour Vladimir Poutine.
Alexis Guilleux à Washington. Elena Voloshine, côté russe, quelles sont les attentes ?
Alors, assez curieusement, les attentes du côté de Vladimir Poutine sont à peu près les mêmes que celles du côté de Joe Biden, à savoir remettre sur les rails une relation qui est absolument désastreuse. Et en fait, on attend pas grand-chose de ce sommet, même si des déclarations de principe seront faites sur l'Ukraine, la Syrie, la Libye, les grands dossiers internationaux. Mais l'enjeu n'est pas là. Avant de régler les conflits mondiaux, les deux dirigeants devraient reprendre tous les formats de discussion qui ont été abandonnés les uns après les autres sur fond de dégringolade de cette relation. Donc, c'est là le véritable enjeu, à commencer par un possible retour des ambassadeurs russes et américains dans leurs capitales respectives, là où ils devraient être en poste à l'issue de ce sommet. C'est ce qu'on attend de voir.
Elena Voloshine en direct de Genève pour Europe 1. L'actualité de ce mercredi matin, c'est encore l'arrestation à sa descente d'avion d'une figure des milieux complotistes, Rémi Daillet, accusé d'être l'instigateur de l'enlèvement de la petite Mia en avril dans les Vosges, Justin Morin.
Oui, il est arrivé ce matin aux alentours de 6h à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec sa famille, puis il a été immédiatement transféré au tribunal judiciaire de Nancy. Dès cet après-midi, il doit être interrogé par les juges d'instruction chargés de l'enquête sur l'enlèvement de Mia. Dans ce dossier, il est soupçonné d'être celui qui a influencé le commando qui a kidnappé la petite fille. Il était visé par un mandat d'arrêt international. Alors son arrivée sur le sol français a été retardée de quelques jours. Au départ, il a été arrêté pour un visa périmé il y a près de 3 semaines sur une petite île de Malaisie. C'est là qu'il vivait avec sa femme et ses 3 enfants. La procédure d'expulsion vers la France a été enclenchée ce week-end. Sauf que sa femme enceinte a dû être hospitalisée lors d'une escale à Singapour. Finalement, hier soir, son état de santé a été jugé apte pour prendre l'avion en direction de Paris. Cet après-midi, dans la foulée de l'interrogatoire de Rémi Daillé par les juges d'instruction, le procureur de Nancy doit prendre la parole, certainement pour annoncer la mise en examen du complotiste.
Aux assises de Haute-Corse, la réclusion criminelle à perpétuité réclamée contre Bruno Garcia pour l'assassinat de son ex-compagne Julie Douib. Le parquet a aussi requis la déchéance de son autorité parentale sur leurs 2 enfants. Audience suivie à Bastia par Marion Dubreuil.
Lorsqu'il tue Julie Douib ce dimanche 3 mars, Bruno Garcia s'érige comme le seul propriétaire d'elle à vie, explique l'avocate générale. À aucun moment, il n'a perdu le contrôle. La magistrate requiert à la barre, au milieu de la salle d'audience, sans notes, et retrace la traque opérée par Bruno Garcia, minute par minute. D'abord, il se construit un alibi le vendredi soir. Il dit avoir entendu les ébats de Julie avec le professeur de sport. Elle porte atteinte à son honneur. C'est le fameux crime passionnel. Le samedi matin, il fait venir sa sœur de Toulon pour garder les enfants. Le soir, il suit Julie au cinéma. Et puis, il exhibe son silencieux devant son beau-frère et tire en l'air. Le dimanche matin, l'arme à la ceinture, il va chez Julie. Il reste moins de 4 minutes. C'est une exécution sommaire. L'avocate générale marque une pause. 4 minutes, c'est long pour Julie qui se voit mourir. La magistrate ne veut pas se dérober. Elle se livre aussi à une autocritique des failles de la chaîne judiciaire. Pas d'enquête de voisinage après la plainte de Julie. Des mains courantes restées sans réponse. Et puis, la garde des enfants confiée au père. Avec des si, on referait le monde, reconnaît l'avocate générale. Celui qui a voulu la mort de Julie Douib, c'est Bruno Garcia. Et il était déterminé.
Marion Dubreuil à Bastia pour Europe 1. 2 mots de politique avec Anne Hidalgo qui esquisse les bases d'un projet présidentiel dans une longue interview à l'hebdomadaire Le 1. Une femme peut changer le rapport au pouvoir, affirme la maire de Paris. Ce serait ça, la disruption totale. Et puis la fin d'isolement de Jean Castex, qui était cas contact de son épouse. Le chef du gouvernement a prévu de reprendre ses déplacements et la parole tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres. Un rappel, enfin, le délai raccourci entre les 2 injections des vaccins Pfizer et Moderna, 3 semaines minimum au lieu de 5 pour faciliter les vaccinations avant les vacances d'été, mais sans effet sur leur efficacité, Anne Le Gall.
Exactement, ce délai de 3 à 7 semaines entre les 2 doses de Pfizer ou Moderna figure dans l'autorisation de mise sur le marché. Au départ, l'espacement était de 6 semaines pour permettre un maximum de premières injections dans l'urgence, mais désormais, pour que l'organisation des vacances ne freine pas la vaccination, le gouvernement a choisi de laisser plus de latitude aux Français pour programmer leur rappel de vaccin. Cette nouveauté est prise en compte sur les plateformes de rendez-vous depuis ce matin, et la deuxième injection doit cependant toujours se faire au même endroit que la première. Avec cet assouplissement, l'objectif est aussi d'accélérer les deuxièmes injections face à la menace des variants, parce qu'on sait qu'avec 2 doses, les vaccins à ARN messager restent efficaces à plus de 85% contre le variant Delta, le variant indien notamment.
Merci Anne Le Gall.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Le casting à suivre, Thomas Pesquet, Paul Pogba et puis les Français qui continuent de délaisser les métropoles pour les villes moyennes.
Europe Midi, Patrick Cohen.
La revanche des villes moyennes à la faveur de la crise sanitaire et du télétravail. Les Français sont de plus en plus nombreux à quitter leur ville pour s'installer dans une commune plus petite. Tendance déjà observée quelques mois après le premier confinement, mais qui semble devenir une tendance de fond, Maud Descamps.
Oui Patrick, hein, il suffit de regarder le nombre de transactions dans les villes moyennes en 2020. Elles ont augmenté de 4,5%, nous dit le baromètre des notaires. Alors ça peut paraître peu comme ça, mais si on compare à la tendance nationale qui, elle, est de moins 4%, on voit bien que ces villes de plus ou moins 40 000 habitants ont attiré les acquéreurs l'an dernier. Dans certaines villes, cette hausse est bien plus marquée, hein, plus 110% par exemple à Besançon, plus 20% à Lorient, même chose à Agen, plus 15% de transactions à Bourges. Des villes qui combinent plusieurs attraits, comme le détaille Peggy Montesinos du Conseil supérieur du notariat.
Un coût de la vie plus abordable par rapport à celui des grandes métropoles. On a en plus une commodité de transport qui relie quand même les territoires plus facilement aujourd'hui. Et ce qui fait véritablement véritablement l'attrait de ces villes moyennes, c'est leur prix. On va dire que le coût moyen dans ces villes moyennes, c'est 200 000 euros.
200 000 euros pour une petite maison avec jardin pour le prix d'un studio à Paris. Conséquence, les Franciliens ont été plus nombreux cette année à acheter dans les villes moyennes des départements limitrophes de l'Île-de-France.
Dans quelques minutes, ce sera le grand saut pour Thomas Pesquet qui, pour la troisième fois de sa vie, se prépare à s'élancer dans le vide spatial pour une mission de 6 heures. Il sera simplement relié par un gros câble à la station. On a vu ça dans les films, mais en vrai, ça doit être autre chose. Lors d'Autriche, dites-nous où on est et ce qui attend l'astronaute français.
Alors, il est déjà en ce moment enfermé dans son scaphandre. C'est l'heure des dernières vérifications. Puis, il ouvrira le SAS, suivi par son collègue américain. Ils doivent tous les deux installer, à partir de 14 heures environ, un nouveau panneau solaire sur la station. Affronter le vide spatial, c'est être confronté à des conditions extrême de température, 150 degrés face au soleil, moins 100 degrés dans l'ombre. Et pendant les 6 heures qu'il passera dans le vide, Thomas Pesquet ne pourra pas s'alimenter, mais un petit tube à l'intérieur de son scaphandre lui permet de boire 1,5 litre d'eau. Chaque mouvement est très éprouvant. Dans cette situation, c'est comme faire de l'escalade avec une armure, dit Hervé Stévenin, chargé de l'entraînement à ses sorties pour l'Agence spatiale européenne.
Du fait que l'astronaute est engoncé dans un scaphandre, on lui limite ses sens. La dextérité est perdue, les mouvements sont limités. Avec un casque qui a une visibilité limitée, on ne voit pas grand-chose. Et là-dedans, il faut quand même se souvenir d'où on vient, où on va, où sont les outils qui flottent autour, où est mon partenaire, où est ma zone de travail, sur quel outil je dois travailler, est-ce que tout ce que je transporte est bien attaché, parce que si un outil est perdu, la mission est terminée, il faut qu'il rentre.
Alors après une telle mission, les astronautes perdent en général 4-5 kilos. Le nouveau panneau solaire que Thomas Pesquet et son collègue vont installer est enroulé. Il mesure près de 20 mètres de long. Il faudra le déployer. Tout cela, les jambes dans le vide et la Terre en dessous à 400 kilomètres.
Merci Laure d'Autriche. Le choc France-Allemagne hier soir en début d'Euro a tenu une grande partie de ses promesses et il a attiré du monde. Plus de 15 millions de téléspectateurs en moyenne devant M6. Score exceptionnel pour un match de premier tour. Les Bleus ont été au rendez-vous, mais un en particulier a fait sensation, Paul Pogba et son mètre 91 éblouissant de bout en bout, Jean-François Pérez.
Oui, on appelle ça crever l'écran. Hier soir à Munich, sur une pelouse qui semblait trop petite pour lui, Paul Pogba a aligné des statistiques qui donnent le tournis. C'est lui qui a touché le plus de ballons, disputé le plus de duels, subi le plus de fautes. Lui, enfin, qui a récupéré le plus de ballons dans les pieds allemands. Et encore, on ne compte pas l'extraordinaire passe sur le but français. Vista, aisance technique, tout y était. Pogba, brillant comme en 2018, mais toujours aussi altruiste au moment d'analyser sa performance.
C'est vraiment cette vie de groupe qui m'aide à être moi-même et à me sentir libéré et à être bien aussi sur le terrain. Après, il ne faut pas oublier, regardez qui est à côté de moi, c'est N'Golo, il y a Adrien, il y a Antoine, et derrière, c'est solide. La force, c'est vraiment le collectif.
On dirait qu'il joue contre des enfants, s'est extasié le champion du monde allemand Christopher Kramer, qui n'a pas reconnu le joueur parfois poussif de Manchester United. Depuis 3 semaines, on parle beaucoup de Benzema, Mbappé, Giroud, Griezmann et de leur bisbille. Mais le vrai patron des Bleus joue sans doute juste derrière eux. La pioche, comme on surnomme Paul Pogba, a déjà frappé un sacré coup.
Jean-François Pérez à Munich et ce soir, on surveillera l'Italie, qui a été impressionnante lors du match d'ouverture face à la Turquie et qui retrouve ce soir le Stade olympique de Rome pour faire tomber son voisin suisse et sceller sans doute sa qualification, enfin sans doute si tout se passe bien pour les Italiens, qualification pour les 8e de finale. Le temps, Anissa Haddadi, vous pensiez nous impressionner avec vos orages, mais à côté du vide spatial décrit par Laure d'Autriche, les 150 degrés au soleil, les moins 100 dans l'ombre,
c'est de la rigolade.
C'est de la petite bière.
Oui. On a alors, quand même 28 départements placés en vigilance orange cet après-midi.
Bon, dites-nous tout de même.
Alors, ces départements se trouvent sur une grande partie ouest du pays. En gros, toute la moitié ouest. Des Pyrénées-Atlantiques à la Seine-Maritime, en passant par la Charente-Maritime ou encore le Loiret. Prudence, donc, si vous nous écoutez à l'ouest du pays, parce que cet après-midi, une forte dégradation orageuse arrive sur les côtes d'Armor, sur l'Ille-et-Vilaine, la Manche et la Normandie. Cet après-midi, les orages seront forts, une grosse intensité électrique accompagnée de grêles et de rafales de vent jusqu'à 100 km/h. Sur la moitié est, là, rien à signaler, le soleil brille encore sous une chaleur écrasante. 35 degrés à Paris et à Lyon, 34 à Clermont-Ferrand, Strasbourg et Bordeaux, 33 à Nancy, 32 à Belfort et Nîmes, 30 degrés à Marseille et Lille, 28 à Quimper, 25 à Dunkerque et on respire bien à Cherbourg avec 20 degrés.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Après la pause, invité d'Europe Midi, Vincent Macaigne, acteur qui a beaucoup joué les nounours et qui devient enfin héros d'un film Médecin de nuit aujourd'hui sur les écrans. À tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Vincent Macaigne.
Bonjour.
Vous êtes le héros d'un film formidable. Médecin de nuit d'Eli Wajsman, thriller social ou road movie médical. C'est la nuit, une seule nuit de Michael, votre personnage, qui soigne les oubliés, les personnes isolées dans leurs appartements et les toxicomanes à qui il prescrit des opioïdes, du Subutex. Mais ces ordonnances sont faites aussi sur commande de son cousin pharmacien, Pio Marmaille, embarqué dans un trafic de médicaments pour se refaire une santé financière. Voilà mon résumé, qu'auriez-vous dit
Non, c'est un super résumé.
En plus ou à ma place.
Bon, moi j'ai du mal à dire l'histoire, mais je sais que je trouve que c'est un film dont je suis très fier parce que c'est un film qui saisit le public. Donc j'ai envie de dire que c'est un thriller, c'est un film qui est sur Paris, qui est sur les solitudes, et en même temps c'est un film de nuit qui va vers le jour, qui va vers l'empathie, vers le groupe. C'est un film dont je suis très très fier, quoi. Voilà.
Effectivement, on est tenu en haleine jusqu'au bout, il y a la tension d'un polar et tenu par ce personnage qui répète constamment « tout va s'arranger ».
Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il fait tout en fait pour se sortir des nœuds où il est plongé, des rapports de violence avec son cousin, avec des trafiquants. Et il fait tout pour aller vers le groupe, vers les médecins du monde, vers sa femme, vers ses enfants. C'est un très beau film, je trouve que c'est un film presque qui ressemble à... C'est un hommage au film du Nouvel Hollywood des années 70,
absolument.
Presque.
Il y a un côté très américain dans le, ouais, dans le rythme et dans la façon de filmer.
C'est un film américain à la française.
Exactement.
Vous avez fait beaucoup de prescriptions de Subutex ces derniers mois?
Ben, je suis souvent appelé par des usagers.
Vous parlez des toxicomanes?
Oui, des toxicomanes.
Et méfiez-vous, parce que nous sommes prêts à ouvrir une enquête.
Si ça va,
j'arrête, je veux tout arrêter, d'accord? Je vais arrêter avec ces ordonnances.
Tiens. Non mais tata, non, t'arrêtes pas maintenant. Si t'arrêtes maintenant aussi, puis va venir ici, va défoncer ma pharmacie.
Qu'est-ce qui se passe? Dans quoi tu t'es mis?
C'est rien, ça.
Mais arrête de dire que c'est rien.
Le personnage qui, en une nuit, a décidé de reprendre sa vie en main, de résoudre tous ses problèmes, et c'est un personnage fort que vous interprétez, fort physiquement y compris, hein, et en même temps d'une douceur, d'une attention aux autres exceptionnelle.
Bah, c'est un vrai cadeau que m'a fait Eli Wajsman, parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un peu d'autres genres de personnages.
Que le nounours...
Le nounours sympa.
Le nounours sympa que vous avez joué dans beaucoup de films.
Ouais. Et du coup, il m'a offert ça, et on a beaucoup travaillé. J'ai dû aussi maigrir assez rapidement parce que je sortais en plus de l'origine du monde de Laurent Lafitte.
Ah oui, mais là c'est autre chose, vous êtes tout nu. Hein.
Je suis tout nu, je fais 30 kilos de plus. Donc j'ai dû perdre 30 kilos en 3 mois. Donc 10 kilos, c'est ça, j'ai 25 kilos en 3 mois, comme ça. Donc j'ai dû travailler tous les jours, mais ça m'a mis dans le personnage, dans la brutalité du film.
Ah oui, mais vous êtes costaud en même temps. Hein.
Je suis costaud, mais ouais, j'ai fait du sport tous les jours. Je me suis préparé, j'ai même passé mon permis de conduire. On a fait des rondes de nuit avec les médecins de nuit pour.
Vous n'aviez pas votre permis de conduire?
J'ai passé mon permis de conduire pour le film.
Ah oui, parce que la voiture est un personnage.
À part entière.
À part entière, effectivement. Il y a beaucoup de scènes de nuit en voiture, et donc vous n'aviez pas votre permis, c'est embêtant, oui. C'est une sorte de handicap. Je disais. Personnage d'une attention aux autres très importante. Eli Wajsman, le réalisateur, dit que c'est un saint. Un saint orthodoxe, mais un véritable saint. Tout ça, en tout cas, c'est comme ça qu'il le voit.
Ouais, je comprends, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment dans un gros pétrin, mais quand même, il l'est parce qu'il a une empathie, en fait. Parce qu'il essaie d'aller vers les autres. En fait, en ce moment même, je trouve que c'est une sorte d'hommage aussi aux médecins et aux médecins SOS, médecins d'urgence. C'est des gens qui affrontent des solitudes, qui affrontent des angoisses, qui affrontent des petits mondes. Je trouve que le film, il est très gracieux, parce qu'en fait, il y a ce côté un peu américain, thriller, on est complètement pris dedans. dedans et en même temps il réussit à avoir des parenthèses d'humanité où on voit ce personnage qui va à la rencontre de chaque patient, qui prend le temps de leur parler et moi je trouve ça très très beau.
Ça parle d'un vrai phénomène, oui. Elie Wajsman s'est documenté, je pense que vous l'avez suivi aussi dans ses lectures, ce trafic d'opiacés, Subutex notamment. Il y a des pharmaciens comme Pio Marmaille dans le film qui ont franchi la ligne rouge, qui sont passés en procès, peut-être des médecins qui ont été radiés, je ne sais pas.
Oui, oui, c'est vrai, non, on est même, enfin, pas moi, Elie est allé même au procès, en fait, de quelques médecins qui ont fait des ordonnances de complaisance. En fait, c'est aussi une sorte de pente un peu étrange, parce qu'il y a aussi des médecins qui font ça par instinct politique, parce qu'ils se disent qu'il faut aider les usagers de drogue à sortir de la drogue.
Et comme un geste militant. Ouais.
Voilà, et petit à petit, ils peuvent dériver vers, on va dire, le deal, hein. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, mais...
Mais ça n'est pas, encore une fois, qu'un produit de trafic. Le Subutex, c'est un
évidemment
produit qui aide les toxicomanes et qui leur évite des overdoses aussi. Hein.
Oui, ça leur évite des overdoses et ça aide. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des médecins qui prescrivent ces ordonnances d'une manière politique. Après, là, la tension dans le film, son cousin, enfin le pharmacien, demande à Mika, enfin mon personnage, de faire des ordonnances de fentanyl. Donc le fentanyl, c'est un médicament très très fort et très dangereux et létal. Donc en fait, ça c'est beaucoup plus dangereux. Et là, il y a une vraie tension dans le film là-dessus et ça crée beaucoup de problèmes au personnage principal.
Vous portez ce film avec Sarah Giraudeau.
Qui est formidable, ouais. Ouais.
Formidable. Oh, Pio Marmaille, mais oui, mais dites-le.
Qui est génial aussi.
Voilà. Et ce personnage, vous le rendez tellement attachant qu'on tremble pour vous, on a peur, on soupire quand vous passez les embûches, quand vous vous en sortez. C'est merveilleux de porter un film comme ça, non, Vincent Macaigne?
Ouais, je pense que pour un acteur, ça arrive pas souvent, c'est un cadeau. Pour moi, je suis... En fait, c'est un film qui s'est fait en état de grâce. C'est un film qu'on a eu du mal à le monter. Et puis, tout le monde, que ce soit le distributeur, le producteur, le chef opérateur, l'image est très belle. La musique est très, très belle. Et les compositeurs ont composé une musique qui prend le film. C'est pas un film... C'est un film profond, en fait. Et c'est très, très rare. Donc, évidemment que, pour moi, je pense que c'est un moment important de ma vie, ce film. Ouais.
Film qui avait eu le label Cannes 2020, ça veut dire qu'il aurait pu ou qu'il aurait dû être sélectionné si le festival avait eu lieu. Enfin, ce label est bel et bien là. Et il dit, comme je le dis, qu'il doit trouver son public parce que c'est vraiment un film à voir. Et L'origine du monde de Laurent Lafitte, c'est pour plus tard, je ne sais pas quand ça va sortir.
Ouais, moi non plus. À la rentrée, mais je n'ai pas la date exacte de sortie.
Voilà.
Moi j'adore, en fait, je suis... hyper heureux des trois films que j'ai fait l'an dernier. Il y a eu Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait, Daniel Mouret, Laurent Lafitte, L'origine du monde, et Elie Wajsman, Médecin de nuit. Et L'origine du monde, c'est très 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 drôle. Il a fait quelque chose d'hallucinant et je sais même pas comment le raconter.
Ovniesque.
Ouais.
Les gens vont être surpris, quoi. Hein.
Très surpris.
Médecin de nuit, Elie Wajsman, avec Vincent Macaigne, Sarah Giraudeau, Pio Marmaille et...
Sarah Le Picard. Oui, qui est formidable aussi. Hein, ouais.
Merci beaucoup Vincent Macaigne.
Merci, merci à vous. Merci.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, d'autres informations avec le 13h de Christophe Lamar, puis La France bouge, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, midi et demi, pour une nouvelle édition d'Europe Midi. Bon après-midi.